Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Jean-François
Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors Thomas, tu dis souvent que Mme Freeland se prépare pour être la prochaine première ministre du Canada. Tu en as une autre preuve.
Oui. Et oui, donc on va avoir droit dans les prochains jours à une mise à jour économique à Ottawa qui va donner l'occasion à nouveau à Chrystia Freeland de se pavaner un peu, de montrer qui elle est, de quel étoffe elle est faite. C'est une femme extraordinaire, avec un égo assez important, merci. Elle est très dangereuse, à mon sens, au plan international. C'est une russophobe. Elle met toujours un autre bûche sur la cheminée dans son soutien à l'Ukraine. C'est très dangereux de ce temps-ci. Des têtes plus froides doivent présider. Puis elle, c'est très clair où elle se loge. C'est son origine. Elle a travaillé en Ukraine. Il y a eu des articles écrits là-dessus dernièrement au moment de la chute du mur de Berlin. Puis lorsque l'Union soviétique était en train de se désagréger, elle était là, elle avait un rôle important à jouer.
Donc Thomas, c'est... parenthèse, donc tu es, elle est derrière la sortie récente de Mélanie Joly, selon toi.
Écoute, moi je veux te dire honnêtement que Mélanie Joly, c'est certain qu'elle est vraiment un deuxième rôle loin derrière Chrystia Freeland en matière internationale. Ça va prendre du temps. Moi je crois que Mélanie Joly, c'est une des meilleures politiciennes de sa génération. Mais à chaque fois qu'elle a un nouveau rôle, on dirait qu'elle doit apprendre. Je me souviendrai toujours en train de dire à Paul Arcand qu'il était peut-être pas assez brillant pour comprendre son plan. C'était pas le meilleur plan de carrière. Et donc, mais après, quand elle a présenté sa loi, écoute, elle a présenté une loi qui rompait avec 50 ans de loi sur les langues officielles où la communauté anglophone du Québec et la communauté francophone au Québec étaient tous les deux des minorités linguistiques. Elle a dit, une minute, il y a une minorité linguistique au Canada, c'est la minorité francophone, puis on va prendre des étapes nécessaires pour le renforcer et le protéger. Ça a pris du guts. Mais elle l'a fait en parlant avec tout le monde. Elle n'est pas sortie de nulle part avec ça. Donc, elle a une démarche pédagogique, tandis que Freeland, elle sait déjà. Elle va pas te consulter, elle sait. Alors, c'est une grosse différence de démarche et on va voir ce que ça donne. Mais Trudeau est vraiment dans vraiment dans une situation très difficile. Il a imprimé des centaines de milliards de dollars canadiens.
Oui.
On a une vraie inflation. On a une vraie augmentation du coût de la vie. Ça commence à faire mal aux familles. Il doit lorgner avec envie ce que Legault vient d'annoncer. Il va envoyer des chèques dans les familles pour compenser pour ça parce que le placard est vide. Chez Trudeau. Il n'y a plus une scène à donner. Donc, eux, ils commencent à se sentir vraiment squeezés.
Et d'ailleurs, Jean-François, parlant d'inflation, à 8h38, je reçois une mère monoparentale de deux enfants qui va nous parler de la difficulté à rejoindre les deux bouts avec l'inflation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'inflation au Canada. Et soudainement, ça nous arrive en pleine face. C'est pas évident.
Exactement. Puis, au début de cette nouvelle flambée inflationniste, on disait, les banques centrales, les économistes disaient, c'est temporaire parce que après la pandémie, il y a eu une augmentation forte de la demande mondiale et il y a eu des embouteillages monstres. C'est encore le cas d'ailleurs pour les chaînes d'approvisionnement. Il y a eu des banques et ça va se régler. C'est juste un mauvais moment à passer. Une fois que l'embouteillage va être passé, on va revenir à une vitesse de croisière. Mais là, les dernières semaines, même la Banque du Canada, le gouverneur de la Banque du Canada, ces derniers jours, a dit, finalement, peut-être que ça va devenir permanent. Permanent à quel niveau? Et si c'est permanent à 3 % par année, on est correct. Si c'est à 5, 6, 7, on a déjà vu ça. Mais si ça continue à monter, par exemple, le coût de l'énergie, en particulier le pétrole, peut continuer à monter, ça peut commencer à faire mal et à nous ramener, nous qui avons tous les trois des cheveux blancs. On a vécu une période dans les années 70 où il était normal d'avoir une inflation à 12-13 % par an.
Ouais.
Et à ce moment-là, on avait inventé ce qu'on appelait la mesure de l'index de la misère. L'index de la misère, c'est quand on additionnait le taux d'inflation et le taux de chômage, qui à ce moment-là pouvait aussi être de 12-13%. Ça a été très longtemps de plus de 10% au Québec. Là, dans ce cas-ci, on n'aura pas la même addition à faire parce que le chômage est très bas, mais l'inflation peut être assez haute. Il va y avoir des pressions très fortes pour les hausses de salaire parce que les gens vont vouloir suivre l'inflation, bien sûr.
Thomas, tu veux nous parler toujours des conservateurs et des vaccins.
Ben ça, c'est intéressant parce que tout le monde blastait, moi inclus, tout le monde blastait autour de jamais être clair sur son opposition ou pas au vaccin obligatoire pour la Chambre des communes. Il répondait toujours à côté de la question, ah ben moi je suis vacciné, mais il faut quand même faire attention. Ce sont des élus après tout. Ben contre toute attente, hier, Anthony Rota, qui est le président de la Chambre des communes, il rend une décision où il dit non, les conservateurs ont raison. On peut pas autrement que par la loi changer les règles et la donne. C'est pas vrai qu'un petit comité peut changer les règles pour des gens dûment élus. C'est le fondement même de notre société. Donc, en termes des institutions démocratiques, c'est une vision assez haut niveau. Sur le plan pratique, ça change pas grand-chose parce qu'il y a déjà eu une entente majoritaire de retourner en version hybride, soit en chambre, soit par vidéo, avec ton vélo en arrière de toi. Donc, ça, c'est réglé. Mais c'était très intéressant. Ce type, Rota, n'arrête pas de m'impressionner. Parce qu'il a une vision de l'institution comme on a rarement vu, puis c'est quelqu'un de très solide et on parle rarement du président de la chambre, on le voit juste en avant. Mais c'est une décision courageuse.
Tout à fait, c'est Anthony Rota. Oui, Jean-François, oui. Tu as quelque chose à dire là-dessus?
Oui, alors, tout à fait, comme décision, mais la Chambre a voté, donc une résolution qui demande soit la vaccination, soit l'exemption médicale, puis l'exemption médicale doit être contre-vérifiée. Alors, ça s'est bien passé pour un certain nombre de députés conservateurs, mais il y en a un, Dean Allison, qui avait déclaré qu'il avait une exemption. Mais depuis cette résolution, il n'a pas été revu dans les corridors de la Chambre. Voilà. Ouais. Alors peut-être qu'il cherche un autre médecin ou il cherche un problème médical. Mais donc c'est une victime collatérale de la décision de la Chambre.
Jean-François, ouais. Je veux t'entendre sur la multiplication de vidéos montrant de la brutalité policière à Québec. On sait qu'à Montréal, on était aux prises à un moment donné avec la matricule 728, une policière assez agressive, merci. Donc, ils ont l'air d'avoir un policier comme ça à Québec, parce que quoi, on le voit dans trois vidéos, là.
Trois ou quatre, maintenant. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment les vidéos des gens qui filment avec leur téléphone intelligent. Et on sent se développer un réflexe. Dès que tu vois un flic en train de faire une interpellation, tu mets à filmer au cas où ça devient intéressant.
Oui.
Et là, non seulement ces vidéos-là sortent, donc les gens prennent l'habitude de le mettre en ligne, mais là, on a vu deux vidéos de caméras de surveillance. Un dans un bar, un dans un corridor. Ça veut dire que les propriétaires de bars décident de mettre en ligne directement, sans le donner à la police, là. Ils les mettent directement en ligne sur les réseaux sociaux des scènes qu'ils ont vues. Alors, ça veut dire que, écoutez, moi, je comprends pas que les policiers de Québec ou d'ailleurs n'ont pas intégré le fait qu'ils sont toujours susceptibles d'être filmés. Alors,
ben oui.
Et donc de moduler ton intervention physique au minimum possible. Et s'il y a un vrai problème avec la personne qui est en train d'interpeller, peux-tu le retourner vers la caméra pour que tout le monde voit qu'il résiste à l'arrestation?
Mais oui, parce que Thomas, tu connais certainement le restaurant Portofino à Québec.
Oui.
Là, c'est un restaurant très très chic. Là.
Oui,
il y a eu une intervention policière très musclée au restaurant Portofino, mais c'est certain, Thomas, qu'il y a des gens autour qui sont assez à table, qui ont sorti leur téléphone intelligent. Je peux pas comprendre que les policiers n'ont pas pensé à ça.
Ben, je pense qu'ils ont un mandat. C'est rendu avec le nombre de films qu'on a avec les mêmes interventions par un groupe de policiers. Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que chaque personne présente lors d'une intervention comme ça, dans le plus récent film pris par une caméra, justement, de surveillance, on voit un jeune homme littéralement faire une vol planée à travers les airs en sortant d'une porte dans un corridor. Il frappe le mur, puis il tombe comme une masse inerte. c'est préoccupant. Il y a une jeune femme policière qui est juste là. Donc, elle, quand elle retourne à la station, elle doit se demander, est-ce que j'en parle avec mon délégué syndical? Est-ce que je parle avec mon supérieur immédiat? Il y a quelque chose qui vient de se passer et je reste tenu responsable parce que l'enquête ne va pas juste concerner les gros bras qui ont projeté le gars contre le mur. C'est que, déontologiquement, ou que ce soit au terme de déontologie policière ou de la loi sur la police, on partage la responsabilité lorsqu'il y a un événement comme ça. Donc, ça, c'est important. J'oserais dire qu'il y a une tête qui risque de rouler plus que d'autres dans cette affaire-là, c'est le chef de police de Québec. Parce que j'ai vu ses interventions et tout ça, mais ce à quoi on assiste, à mon point de vue, c'est une culture d'entreprise. Un peu trop tough dans les bars, on va mettre une escouade avec des gros bras, ça va calmer le jeu, les gens vont savoir que s'ils décantent trop, notre gang va débarquer. Mais tu peux pas avoir une culture d'entreprise comme ça. Tu peux pas avoir... Ça, c'est juste ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Et sans que en haut, on soit bien au courant.
En tout cas, vivement les caméras corporelles pour les policiers, pour qu'on puisse voir toute l'opération au grand complet. Ça protégerait aussi les policiers.
Il faut avoir le son aussi. Parce que le problème de l'absence de son, c'est qu'on ne sait pas ce que la personne appréhendée est en train de dire.
Exactement.
On demande l'arrêt. Est-ce qu'elle est en train d'insulter les policiers? Je veux dire, le son est très important.
Tout à fait. Oui, merci beaucoup, messieurs. Allez, merci. Bon week-end, Thomas. Salut. Bon week-end. Bye-bye. Jean-François, si vous voulez lire les textes très intéressants de Jean-François, commander ses ouvrages ou alors écouter son excellent balado, allez sur laboîtealizée.com.